comme dans un livre. Marie-Christine Loubry. Dracula, de Bram Stoker. Roman traduit de l'anglais par Lucienne Molitor. Lettre de Lucy Westenra à Mina Murray, 24 mai. Ma très chère Mina, merci, merci et encore merci pour ta gentille lettre. Je suis si heureuse de me confier à toi et de savoir que tu me comprends. Ma chérie, un bonheur ne vient jamais seul, comme les vieux proverbes disent vrai. J'aurai 20 ans en septembre et jusqu'à ce jour, personne ne m'avait jamais demandé en mariage, du moins, jamais sérieusement. Et voici qu'aujourd'hui, j'ai reçu 3 propositions de mariage. Oui, 3 propositions en une seule journée. N'est-ce pas terrible ? Je suis si triste, si sincèrement triste pour 2 pauvres garçons. Oh Mina, mon bonheur est tel que je ne sais que faire. 3 demandes en mariage. Ne le raconte surtout pas à nos amis. Elles pourraient se mettre en tête toutes sortes d'idées extravagantes, se croire offensées, dédaignées. Si durant la première journée de vacances qu'elle passe chez elle, elle n'en recevait pas moins de 6. Il y a des jeunes filles si légères, si vaines. Tandis que nous, ma chère Mina, qui sommes fiancées et sur le point de nous établir sagement dans le mariage, nous méprisons pareille vanité. Mais il faut que je te parle de tous les 3. Tu me promets, n'est-ce pas, de garder le secret. Jonathan, lui, évidemment, tu peux le mettre au courant, lui seul. Car s'il s'agissait de toi, moi, j'en parlerai certainement à Arthur. Une femme doit tout dire à son mari, n'est-ce pas, ma chère? Et mon premier désir est de ne pas avoir de secret pour le mien. Un homme, et ils sont tous pareils, aime que les femmes, et surtout la sienne, soient sincères. Mais les femmes, je le crains, ne sont pas toujours aussi franches qu'elles devraient l'être. Eh bien, ma chère, voilà. Le numéro 1 est arrivé vers midi, au moment où nous allions nous mettre à table pour déjeuner. Je t'ai déjà parlé de lui. C'est le docteur John Seward, le directeur de l'hospice d'aliénés, un homme à la forte mâchoire et au fond très haut. D'apparence, il était parfaitement calme, mais je le devinais plutôt nerveux. Il s'était évidemment tracé une ligne de conduite dont il voulait ne rien oublier. Néanmoins, il faillit presque s'asseoir sur son chapeau haute forme, ce que les hommes en général ne font pas quand ils sont de sang-froid. Puis, afin de paraître à son aise, il s'est mis à jouer avec un bistouri. Je ne sais pas comment je n'ai pas crié d'effroi en voyant cela. Mais Mina, il m'a parlé sans détour. Il m'a dit combien il tenait à moi, bien qu'il ne me connaisse que depuis si peu de temps, et que sa vie lui semblerait merveilleuse si j'étais à ses côtés pour l'aider, l'encourager, le réconforter. Il désirait me faire comprendre quelle serait l'étendue de son malheur si je le repoussais. Mais quand il vit mes larmes, il s'écria qu'il était une brute, qu'il ne voulait pas ajouter à mon chagrin. Il me demanda seulement si, le temps aidant, je pourrais l'aimer. Je secouai la tête, ses mains se mirent à trembler, et non sans quelque hésitation, il chercha à savoir si j'aimais déjà ailleurs. Mais il s'exprima très poliment, disant que pour rien au monde il ne voudrait m'arracher une confidence. Il demandait simplement si mon cœur était libre parce que, dit-il, quand le cœur d'une femme est libre, l'homme qui l'aime peut garder quelque espoir. Alors, Mina, j'ai senti qu'il était de mon devoir de lui avouer que, en effet, j'aimais quelqu'un. Aussitôt, il s'est levé, l'air très grave et toujours aussi calme, tandis qu'il me prenait les 2 mains en me souhaitant beaucoup de bonheur. Il ajouta que si j'avais jamais besoin d'un ami très dévoué, je pourrais compter sur lui. « Oh, ma chère Mina, en t'écrivant, je ne puis pas encore m'empêcher de pleurer. » Tu pardonneras, n'est-ce pas, les traces de mes larmes sur cette lettre? Être demandé en mariage, c'est charmant et tout, mais Je t'assure, on n'est pas tout à fait heureuse quand on a vu un pauvre garçon qui vous aime sincèrement s'en aller le cœur brisé. Quand on sait parfaitement que, quoi qu'il puisse dire au moment même, on disparaîtra complètement de sa vie. Ma chérie, je m'arrête. Je suis incapable d'en écrire davantage. Je suis très triste, et pourtant si heureuse. Le soir. Arthur vient de partir, et je me sens beaucoup, beaucoup mieux qu'au moment où j'ai interrompu cette lettre. Je vais donc continuer à te raconter ma journée. Le numéro 2 est arrivé après le déjeuner. C'est un garçon absolument charmant, un Américain du Texas, et il paraît si jeune que l'on se demande s'il est possible qu'il ait déjà vu tant de pays et tant de choses. Je comprends la pauvre Desdémone et ce qu'elle a dû éprouver quand elle entendait tant de longues histoires séduisantes, même racontées par un noir. Nous, les femmes, nous avons sans doute tellement peur de tout que nous pensons tout de suite qu'un homme nous rassurera, nous protégera, et nous l'épousons. Si j'étais un homme, je sais parfaitement ce que je ferais pour gagner le cœur d'une jeune fille. Mais non, au fond, je ne le sais pas. Car si M. Maurice, c'est l'Américain, nous raconte toutes ses aventures, Arthur ne raconte jamais rien, et pourtant... Mais ma chérie, je vais trop vite. M. Quincy P. Maurice m'a trouvée seule. Quand un homme rencontre une fille, elle est toujours seule, comme par hasard. Non, ce n'est pas tout à fait vrai, car Arthur à deux reprises s'est arrangé pour me trouver seule et je l'ai aidé. Le hasard n'y était pour rien. Je ne rougis pas de l'avouer maintenant. Je dois te dire pour commencer que M. Maurice ne parle pas toujours argot. De fait, il ne le fait jamais devant les étrangers, car il est fort bien élevé et ses manières sont des plus distinguées. Mais il s'est aperçu que je trouverais amusant de l'entendre parler l'argot américain. Et quand personne n'est là qui puisse en être choqué, il dit des choses si drôles. Je me demande même, ma chérie, s'il n'invente pas toutes ces tournures, car elles signifient toujours exactement ce qu'il veut dire. Mais il faut avoir l'habitude de parler argot. Je ne sais pas si je m'y mettrai jamais. D'ailleurs, j'ignore si cela plairait à Arthur. Je ne lui ai jamais encore entendu employer un seul mot d'argot. Bon, M. Maurice s'assit donc à côté de moi, l'air heureux et joyeux, encore que très nerveux. Je m'en aperçus tout de suite. Il me prit la main et, la serrant longuement, il me dit sur un ton très très doux « Mademoiselle Lucie, je ne suis même pas digne, je le sais, de nouer les lacets de vos jolis souliers. Mais je pense que si vous attendez de trouver un homme qui le soit, vous attendrez fort longtemps. Ne voulez-vous pas que nous fassions route ensemble ? Oui, que nous descendions ensemble cette longue, longue route côte à côte, sous le harnais ?» Il paraissait d'humeur si gaie, vraiment, que j'eus l'impression que si je refusais son offre, il en serait beaucoup moins affecté que le pauvre docteur Seward. Aussi répondis-je, à mon tour sur un ton enjoué, que je ne connaissais rien en fait d'attelage et que je n'avais pas encore envie de me laisser mettre le harnais. Il s'excusa d'avoir parlé peut-être trop légèrement et il me pria de lui pardonner une telle erreur en une occasion qui, pour lui, était particulièrement grave et importante. En prononçant ces mots, il avait l'air si navré et en même temps si sérieux, possible de ne pas éprouver et ne pas aborder la même gravité. « Oh Mina, tu vas me traiter d'horrible coquette !» Encore que je ne puisse m'empêcher d'exulter à part moi en pensant qu'il était le deuxième, aujourd'hui, à me demander ma main. Alors, ma chérie, avant même que je n'aie eu le temps de répondre, il se mit à déverser, oui, déverser un torrent de paroles tendres et amoureuses, déposant à mes pieds son cœur et son âme. Encore une fois, il disait tout cela avec tant de sérieux que jamais plus, dorénavant, je ne penserai d'un homme qu'il est fatalement toujours d'humeur gaie et plein d'entrain, et jamais sérieux, uniquement parce qu'il lui arrive de se montrer parfois joyeux et de parler sur un mode plaisant. Sans doute lut-il sur mon visage quelque chose qui l'inquiéta, car il s'interrompit tout à coup et me dit avec une sorte de ferveur fort courageuse qui me l'aurait fait aimer si j'avais été libre. « Lucie, vous êtes une jeune fille sincère, parfaitement honnête avec vous-même. Je ne serais pas ici à vous parler si je ne le savais pas, si je ne connaissais pas non plus votre franchise. Avouez-moi donc, comme si nous étions deux amis l'un en face de l'autre, si vous aimez déjà quelqu'un. Dans ce cas, je ne vous importunerai jamais plus, mais je serai pour vous, si vous le voulez bien, un ami très fidèle. » « Ma chère Mina, pourquoi les hommes ont-ils une telle grandeur d'âme, alors que nous, les femmes, sommes si indignes d'eux ?» Je me rendis compte soudain. Depuis près d'une demi-heure, je ne faisais que plaisanter, et cet homme à qui je m'adressais sur ce ton était la distinction, la délicatesse même. Je fondis en larmes, car vraiment j'étais très triste, très malheureuse. Pourquoi une jeune fille ne peut-elle pas épouser 3 hommes, et même plus, si elle en a l'occasion? Ne crois-tu pas que cela épargnerait bien des ennuis? Mais je le sais, ce ne sont pas là des propos à tenir. Seulement, je peux dire que, malgré mes larmes, j'eus le courage de regarder M. Maurice dans les yeux et lui répondre avec cette franchise dont lui-même venait de parler. « Oui, j'aime quelqu'un, bien qu'il ne m'ait pas encore dit, lui, qu'il m'aimait. » Je compris tout de suite que j'avais eu raison de lui parler ouvertement, car son visage s'illumina. Il tendit les 2 mains, prit les miennes, je crois même que c'est moi qui mis mes mains dans les siennes, et me dit sur un ton le plus cordial « Voilà une fille sincère et loyale. Il vaut beaucoup mieux arriver trop tard pour gagner votre cœur qu'arriver à temps pour gagner celui de n'importe quelle autre jeune fille de la terre. Ne pleurez pas, ma chère Lucie. Si c'est pour moi, n'ayez crainte. Je suis habituée au coup et saurais supporter celui-ci. Mais si cet autre garçon ne connaît pas encore son bonheur, eh bien, il devra prouver bientôt qu'il s'en rend compte et l'apprécie. Ou bien il aura affaire à moi. Ma petite fille, votre honnêteté, votre courage, votre sincérité vous ont acquis un véritable ami, ce qui est plus rare qu'un amoureux, plus désintéressé en tout cas. Ma chère Lucie, je vais devoir parcourir un chemin bien solitaire avant de quitter ce monde pour le royaume éternel. Ne me donnerez-vous pas un baiser, un seul? Ce sera pour moi un souvenir qui éclairera ma nuit de temps à autre. Dites-vous bien que vous pouvez me le donner si cela vous plaît. Puisque cet autre jeune homme, ce doit être un très bon garçon, Lucie, et très attachant, très fin, sinon vous ne l'aimeriez pas, ne s'est pas encore déclaré. Ces derniers mots, Mina, m'attendrirent réellement. N'était-ce pas admirable de parler ainsi d'un rival, alors que d'autre part il avait tant de chagrin? Je me penchai vers lui et lui donnai un baiser. Il se leva, mes 2 mains encore dans les siennes, et tandis qu'il promenait longuement les yeux sur mon visage, je sentais que je rougissais beaucoup. Il reprit. Ma petite fille, je tiens vos mains dans les miennes et vous m'avez donné un baiser. Si cela ne scelle pas notre amitié, rien ne le fera. Merci d'avoir été bonne et sincère envers moi. Et au revoir. Il laissa retomber mes mains, prit son chapeau et se dirigea d'un pas rapide vers la porte, sans jeter un regard en arrière, sans verser une larme, sans hésiter, sans s'arrêter. Et moi, je suis ici à pleurer comme un bébé. Pourquoi un homme comme celui-là doit-il être si malheureux quand il y a au monde tant de jeunes filles qui baiseraient le sol sur lequel il marche? Moi-même, je le ferais si j'étais libre. Seulement voilà, je ne désire pas être libre. Ma chérie, tout cela me trouble beaucoup et maintenant je me sens incapable de te décrire mon bonheur, alors que je t'en ai déjà parlé. Et je ne veux rien te dire du numéro 3, avant que mon bonheur ne soit entier. Ton amie pour toujours, Lucie. Post-scriptum. Oh, le numéro 3. Mais ai-je besoin de t'en parler, du numéro 3? Tout est d'ailleurs si confus pour moi. Il me semble que quelques minutes à peine se sont écoulées entre le moment où il est entré au salon et celui où il m'a serrée dans ses bras et couverte de baisers. Je suis tellement, tellement heureuse. Et je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ce bonheur. J'essaierai seulement désormais de prouver à Dieu que je lui suis reconnaissante de m'avoir envoyé, dans sa bonté infinie, un amoureux, un mari et un ami. Au revoir. Thank you. journal du Dr. Seward. Enregistré sur phonographe. 25 mai. Assez déprimé aujourd'hui. Pas d'appétit. Impossible même de me reposer. Alors j'en reviens à mon journal. Depuis que ma demande en mariage a été repoussée, hier, j'ai l'impression de vivre dans le vide. Plus rien ne me semble assez important pour mériter que l'on s'en occupe. Comme je sais que le seul remède à cet état est le travail, j'ai rassemblé tout ce qui me restait de force et je suis allée voir mes malades. J'en ai examiné un dont le cas me paraît particulièrement intéressant. Son comportement est si bizarre que je suis maintenant bien décidée à faire tous les efforts nécessaires pour essayer de comprendre ce qui se passe en lui. Il me semble enfin que je commence à pénétrer son mystère. Je lui ai posé plus de questions que d'habitude afin de mieux voir à quel genre d'hallucination il est en proie. Il y avait une certaine cruauté, je m'en rends compte maintenant, à agir ainsi. C'était un peu comme si j'avais voulu le pousser à ne parler que de sa folie, chose que j'évite toujours avec mes malades, exactement comme j'éviterais la gueule de l'enfer. En quelles circonstances pourrais-je ne pas éviter la gueule de l'enfer ? Omnia Roma Venalia Sunt. L'enfer a son prix, lui aussi. S'il existe quelque chose de réel derrière ce comportement instinctif, cela vaut la peine de rechercher exactement ce qu'il en est. Autant commencer dès maintenant. R. M. Renfield, état 59. Tempérament sanguin. Grande force physique, excitation. Période d'abattement conduisant à des idées fixes que je ne m'explique pas encore. J'ai l'impression qu'un tempérament sanguin, s'il vient à se déséquilibrer, peut en arriver à obnubiler complètement la raison. Et ces hommes peuvent devenir dangereux, dans la mesure où ils sont dépourvus d'égoïsme. Chez les égoïstes, l'instinct de conservation est un bouclier qui protège aussi bien leurs ennemis que leur propre personne. Je crois que lorsque le moi reste ferme et solide, la force centripède est en déséquilibre avec la force centrifuge. Quand le devoir, une cause ou autre constitue le point fixe, la centrifuge l'emporte, et seul un hasard ou une série de hasards peuvent rétablir l'équilibre. Lettre de Quincy P. Morris à l'honorable Arthur Holmwood. 25 mai. Mon cher Art, nous nous sommes raconté des histoires à n'en plus finir, assis dans la prairie, près du feu de camp. Et réciproquement, nous avons pansé nos blessures après avoir essayé d'aborder aux îles Marquises. Puis nous avons bu à la santé de l'un et de l'autre, au bord du lac Titicaca. J'aurais encore d'autres histoires à raconter, d'autres blessures à guérir et une autre santé à porter. Voulez-vous que ce soit demain soir, près de mon feu de camp? Je n'ai aucun scrupule à vous le demander, puisque je sais qu'une certaine dame est invitée à un certain grand dîner et donc que vous êtes libre. Nous ne serons que trois, le troisième étant notre vieux Jack Seward. Lui et moi désirons mélanger nos larmes à notre vin et de tout cœur boire à la santé de l'homme le plus heureux du monde, qui a su gagner le cœur le plus noble de la création et le plus digne d'être gagné. Nous vous promettons un accueil chaleureux, une réception plus que fraternelle et des vœux aussi sincères qu'est sincère envers vous-même votre main droite. Nous jurons tous les deux de vous renvoyer chez vous si vous buvez vraiment trop à la santé d'une certaine Père Dieu. Nous vous attendons. Votre, comme par le passé, et toujours, Quincy P. Morris. Télégramme d'Arthur Holmwood à Quincy P. Morris. Comptez sur moi, j'apporte des messages qui tinteront longtemps à vos oreilles à tous deux. Art. Chapitre 6. Journal de Mina Murray. Whitby, 24 juillet. Lucie, plus jolie et plus charmante que jamais, est venue me chercher à la descente du train, et nous nous sommes rendus aussitôt à l'hôtel du Crescent, où elle et sa mère ont leur appartement. C'est un endroit ravissant. Une petite rivière, l'Esk, coule à travers une vallée profonde qui s'élargit peu à peu aux abords du port. Un grand viaduc passe au-dessus, supporté par de hauts piliers. Quand on regarde entre ceux-ci, le paysage apparaît plus étendu qu'il ne l'est en réalité. La vallée est très belle, d'un vert magnifique, et les collines sont si escarpées que lorsque vous vous trouvez au sommet de l'une ou de l'autre, c'est à peine si vous apercevez le creux au fond duquel serpente le cours d'eau, à moins que vous ne vous teniez tout au bord du précipice. Les maisons de la vieille ville sont toutes coiffées de toits rouges et semblent grimper les unes sur les autres, comme on le voit sur les gravures qui représentent Nuremberg. À peine a-t-on quitté la ville, on arrive aux ruines de l'ancienne abbaye de Whitby, qui fut mise à sac par les Danois, et où se situe une partie de Marimon, la scène, entre autres, où la jeune fille est emmurée vive. Ce sont des ruines immenses qui vous donnent un réel sentiment de grandeur, et pittoresque, par plus d'un aspect. Une légende veut que parfois, une dame apparaisse à l'une des fenêtres. Entre ces ruines et la ville s'élève le clocher de l'église paroissiale, laquelle est entourée d'un vaste cimetière. À mon avis, c'est le plus bel endroit de Whitby. On a de là une vue magnifique sur le port et sur la baie d'où un promontoire s'avance dans la mer. Dans le port, ce promontoire devient si abrupt que les bords se sont éboulés et que certaines tombes, car le cimetière se prolonge jusque-là, ont été détruites. Des allées plantées d'arbres traversent le cimetière, et des bancs engagent les promeneurs à s'asseoir des heures entières tout en contemplant le paysage et en s'abandonnant aux caresses de la brise marine. Moi-même, je viens souvent m'y installer pour travailler. En fait, je suis assise en ce moment sur un de ces bancs et j'écris, mon cahier sur mes genoux, non sans écouter cependant la conversation de trois vieillards près de moi, qui sans doute n'ont rien à faire de toute la journée que se réunir ici pour parler de la pluie et du beau temps. À mes pieds, c'est le port, et au-delà, un long mur de granit qui s'enfonce dans la mer et finalement dessine une courbe au milieu de laquelle se dresse un phare. Le paysage est admirable à marée haute, mais quand la mer se retire, on ne voit plus en fait d'eau que l'Esk qui coule entre les bancs de sable en contournant çà et là un rocher. Plus loin que le port, mais de ce côté-ci, s'élève sur la longueur d'environ un demi-mille un haut banc de roche qui part de derrière le phare. Au bout se trouve une bouée munie d'une cloche qui sonne lugubrement par gros temps. Une légende locale veut que lorsqu'un bateau est perdu, les marins entendent cette cloche jusqu'en haute mer. Il faut que je demande à ce vieillard qui vient vers moi si cela est vrai. C'est un vieil homme extraordinaire. Il doit être terriblement âgé, car son visage est tout ridé, tout rugueux, comme l'écorce d'un arbre. Il m'a dit qu'il a près de 100 ans, qu'il se trouvait sur un bateau de pêche au Groenland lors de la bataille de Waterloo. Et c'est, je le crains, un sceptique, car lorsque je lui ai parlé de la cloche que l'on entend jusqu'en haute mer et de la dame en blanc de l'abbaye, il m'a répondu assez brusquement : « Vous savez, mademoiselle, moi, j'y crois pas trop à toutes ces histoires. C'était bon autrefois. Remarquez que je ne dis pas que ça n'a jamais existé. Je dis que ça existait déjà plus de mon temps. Tout ça, c'est très bien pour les étrangers, les excursionnistes et tout ça. Mais pas pour une jolie jeune dame comme vous. Les gens qui viennent à pied de York et de Leeds et qui sont toujours à manger des harengs sorts et à boire du thé et à regarder ce qu'il y a à acheter bon marché, y croiraient peut-être. Mais je me demande qui pourrait se mettre en peine pour leur raconter des mensonges pareils, même pas les journaux qui sont pleins de sottises. Je me dis, voici un homme dont on peut sans doute apprendre beaucoup de choses intéressantes. Et je lui demandais de me parler de la pêche à la baleine, telle qu'on la pratiquait autrefois. Au moment où il allait commencer ses récits, 6 heures sonnèrent. Aussitôt, il se leva péniblement en disant « Il faut rentrer à la maison, mademoiselle. Ma petite fille n'aime pas d'attendre quand le thé est prêt. Et il me faut beaucoup de temps pour descendre les marches. » Il s'en alla en traînant la jambe, et je le suivis des yeux tandis qu'il se pressait autant qu'il le pouvait pour descendre les degrés. Cet escalier constitue une des caractéristiques de l'endroit. Il conduit de la ville à l'église, il y a des centaines de marches, en fait, j'imagine mal combien il y en a, qui montent légèrement en colimaçon. Et il n'est pas raide du tout, au contraire, si bien qu'un cheval pourrait aisément le monter ou le descendre. Sans doute autrefois menait-il également aux abords de l'abbaye. Moi aussi je vais rentrer. Lucie devait aller faire une visite avec sa mère cet après-midi. J'ai préféré ne pas les accompagner. Elles sont déjà probablement de retour. »